France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également. Eh bien non, pas de Canal 27 ce soir, la TNT, pour cause de mouvement social concernant nos amis de la télévision. Alors déjà, juste au début, un grand merci pour ces audiences. De nouveau, France Info est au maximum, au top. On a mangé des pains surprises à ne plus savoir qu'en faire aujourd'hui. On a bu un peu de mousseux, on ne sait plus où on en est. Bref, merci beaucoup à vous et notamment à tous ceux voilà, qui écoutent les informés de France Info en nette progression sur cette tranche. Et ce soir, autour de la table des informés de France Info, nous trouvons Henri Vernet, bonsoir. Du Parisien aujourd'hui en France. Également Fatima El-Ouazdi, bonsoir. De Politiquel, Pascal Richer, bonsoir. De L'Obs et le communicant Emery Doliger, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, on parlera un peu de Cuba qui dit adieu à Castro, enfin un tout petit peu, de l'Europe et d'Emmanuel Macron et des différents sondages qui le concernent un an après son élection. Mais juste avant, nous allons parler des différentes mobilisations sociales avec vous, Marie-Claire Caïto. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes membre de la commission confédérale de la CGT. Alors, autant vous le dire, au début, nous, médias, nous sommes réunis, vous savez, pour mandater le cabinet Occurrence afin de vous donner, selon nous, les vrais chiffres des manifestants grâce à une méthode révolutionnaire, les compter, ces manifestants. Eh bien, en fait, alors, autant vous le dire, ça alourdit un peu les choses, car avant, il y avait deux chiffres, les manifestants et la police, et maintenant, celui des médias, mais seulement conscrits à la manifestation parisienne. Donc, selon les médias qui ont, avec France Info, il y aurait eu, cet après-midi, à Paris, 15 300 personnes qui auraient défilé à l'appel de la CGT et Solidaire contre la politique gouvernementale. Dans les 130 cortèges prévus dans tout le pays, celui de Marseille aurait réuni 65 000 personnes selon les organisateurs, mais seulement 5 000 selon la police. Alors Marie-Claire Caïto, ce sont des manifestations qui voulaient réunir un peu tous les mécontentements. Est-ce que pour vous c'est un pari réussi aujourd'hui ?
Oui, c'est un pari réussi, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mobilisation dans le pays, beaucoup de manifestations, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'actions, certaines médiatiques et d'autres moins médiatiques. Je pense par exemple au secteur de l'énergie, quand on va remettre le courant aux plus démunis ou quand on passe en heure creuse des hôpitaux. Donc c'est des choses qu'on ne mesure pas forcément dans les médias. Donc il y a eu vraiment énormément d'actions. Et moi, je crois que le gouvernement et le président de la République auraient tort de parier sur le pourrissement ou de ne pas regarder ce qui est en train de se passer dans le pays.
Donc quand on dit baroud d'honneur aujourd'hui, pour vous, c'est pas le cas ?
Non, c'est pas un baroud d'honneur. Ce qui est en train de se passer dans le pays, je pense que c'est très profond. Alors les salariés, les travailleurs sur leurs revendications, mais que ça soit les cheminots, les électriciens, que ça soit les salariés dans les EHPAD ou les jeunes, je pense qu'il y a des messages communs très forts qu'il faut entendre. Et au fond, ce qu'ils veulent, c'est plus de justice sociale. C'est-à-dire que c'est une société qui s'appuie sur les services publics et qui redistribue mieux les richesses. Je crois que c'est vraiment commun à tous ces mouvements et c'est extrêmement fort. Et le gouvernement ne devrait pas passer à côté de ces mouvements-là.
Alors Fatima El-Ouazdi, je ne vous voyais pas du tout d'accord avec ce que disait Marie-Claire Caïto.
Pour moi, c'est la convergence de lutte de personnes qui savent pas quoi revendiquer. En fait, pour moi, ça rassemble un peu tout et n'importe quoi. Je vais reprendre élément par élément pour être sûr que mon propos soit bien contextualisé. D'abord, sur la réforme de la SNCF. Tout à l'heure, j'entendais un député à la France Insoumise pendant le cortège qui disait « Non, mais en fait, on est contre la privatisation de la SNCF, on est contre la suppression du statut des cheminots, alors que dans cette réforme, il n'est pas question de supprimer le statut des cheminots pour ceux qui l'ont. Et donc, il n'y a pas de réforme, c'est juste que les nouveaux embauchés seront sous contrat de droit privé, en fait, premièrement. Il n'y a pas de privatisation de la SNCF puisque les capitaux restent publics dans cette entreprise. Sur la loi d'orientation pour les étudiants, ceux qui bloquent les universités, ils ont des revendications, c'est du tout et du n'importe quoi. La loi OR a été votée en décembre dernier, elle est déjà mise en application avec Parcoursup, donc c'est déjà en train d'être fait, ce n'est pas de la sélection. On a augmenté le nombre de places pour les étudiants, on a également augmenté les moyens. Alors, et donc on a réduit aussi les candidatures. Et je veux juste terminer sur un truc qui est très très important. Les revendications, ça va de Notre-Dame-des-Landes au peuple kurde. Enfin, je veux dire, c'est un peu la tambouille des revendications, alors que le gouvernement, clairement, c'est pas du tout sa feuille de route.
Donc, alors,
je pense que
on le voit, alors, justement, Marie-Claire Caïto, pour vous, est-ce qu'il y a un tronc commun, finalement, à toutes ces colères ou pas ?
Je pense qu'il faut pas ni caricaturer, ni mépriser ce qui est en train de se passer dans le pays. Et dire, par exemple, que les cheminots ne savent pas pourquoi ils revendiquent et pourquoi ils manifestent, je m'excuse, mais ça veut dire que vous n'avez pas été écouté, les cheminots. Parce qu'ils savent très bien pourquoi ils revendiquent. Ils revendiquent pour avoir un service public de qualité. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, la SNCF, elle ne fonctionne pas bien. Elle ne fonctionne pas bien parce que les trains ne sont pas comme ils devraient être au XXIe siècle, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à l'heure. Souvent, ils arrivent en retard parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un, un cheminot, dans le train parce qu'il y a des problèmes de personnel. Ils se battent pour ça. Et dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils se battent, je vous prendre un exemple. Vous dites qu'il n'est pas question de privatiser la SNCF. Vous savez, moi, j'appartiens au secteur de l'énergie. Et en 2004, dans les manifestations, on se passait en boucle le discours de M. Sarkozy qui disait « Je vous promets que jamais je ne privatiserai GDF ». Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui ce qu'est devenu GDF ?
Le secteur de l'énergie, c'est encore, c'est pas du tout la même chose.
C'est les mêmes directives européennes qui sont appliquées aux télécoms, à l'énergie et à la SNCF. Donc, si on fait les mêmes politiques,
le président de la République a quand même garanti la semaine dernière, dimanche dernier, et je termine pour laisser d'autres personnes aussi s'exprimer, a quand même dit que, de toute façon, il l'a dit dans le blanc des yeux de deux journalistes qui sont pas des journalistes qui sont sympathiques, on va dire, et qui vont dans le sens de d'Emmanuel Macron. Il leur a bien dit, dans le blanc des yeux, la SNCF ne sera pas privatisée.
Et pourquoi il a refusé l'amendement sur la non-cessibilité des parts de l'État dans ce cas? Pourquoi il a refusé l'amendement sur la non-cessibilité des parts de l'État? Alors, si.
C'est pas lui. Alors, je dirais qu'il y a un gouvernement et le président de la République n'a rien à voir avec la
SNCF. On va juste en parler dans un instant de la SNCF.
Le Parlement est quand même majoritairement... là, vous allez me faire rire quand même.
On va en parler dans un instant de la SNCF, mais juste avant sur la convergence des luttes aujourd'hui, Pascal Richer, pour vous, est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, alors après, chacun dira si c'était important ou pas, ces cortèges, mais est-ce qu'on peut la provoquer, cette convergence des luttes, ou elle vient toute seule, finalement, comme en 95?
C'est très difficile de prédire si elle va venir. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'elle vienne. Ce que je vois surtout, c'est une divergence des syndicats. Enfin, la journée d'aujourd'hui, on a vu que la CGT était totalement isolée et elle a fait le plein de ce qu'elle pouvait faire, mais c'était pas énorme par rapport au 22 mars. Donc, on peut pas dire que ce soit une journée, c'est un succès pour la CGT aujourd'hui.
En tout cas, une intersyndicale qui sera présente le 22 mai prochain pour justement la fonction publique. On va continuer à en parler de ça dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Près de 300 000 manifestants dans toute la France contre la politique de Macron. Le résumé ce soir et en ces termes de la CGT. Après 130 rassemblements, le syndicat donne maintenant rendez-vous pour les manifestations du 1er mai. Le ministère de l'Intérieur évoque, lui, une participation de 119 500 personnes aujourd'hui. La CGT solidaire appelait une journée de convergence des luttes. Benjamin Griveaux préfère plutôt penser à la convergence d'une majorité silencieuse qui souhaite que nous puissions opérer les transformations. Le porte-parole du gouvernement était interrogé sur France Info. 63 présidents d'université réclament des moyens pour éviter l'échec de la réforme. Les trois quarts des dirigeants des campus français prennent ainsi la défense de la réforme controversée pour l'accès à la fac. Pour les signataires du texte, la nouvelle loi n'est en rien une sélection, mais elle impose de déployer des moyens, et notamment des moyens humains. À Cuba, Raúl Castro confirme qu'il cédera la tête du parti unique en 2021. Miguel Díaz-Canel, lui, succède aujourd'hui à la présidence du pays. À 57 ans, il était le seul candidat en lice. Et puis le mercure était encore à la fête aujourd'hui, surtout en Normandie et Île-de-France. 28 degrés 7 à Paris, 28 degrés 2 à Lisieux. Météo France souligne que le thermomètre est bien au-dessus des normales saisonnières en ce moment. En moyenne de 16 degrés maximum au nord et 18 degrés maximum au sud.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des manifestations qui ont lieu aujourd'hui organisées par la CGT solidaire. Selon la CGT, 300 000 manifestants, parce que sinon ça aurait été un peu dingue, et 119 500 manifestants dans toute la France contre la politique gouvernementale à Paris. Henri Vernet, quand on parle là de justement de convergence des luttes, on a entendu Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui lui dit convergence d'une majorité silencieuse. Oui, de nouveau, bataille de l'opinion.
Exactement, sur ce terme. Mais c'est une bataille de l'opinion. Et puis il s'appuie sur les sondages, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a un mot intéressant aujourd'hui, c'est une espèce de demi-aveu de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même rêvait de faire ça à la convergence des luttes. Lui, il rêvait de le faire à l'automne dernier sur les lois, sur les ordonnances de travail, et ça n'a pas marché. Et là, aujourd'hui, il a parlé de coïncidence des luttes. Pour un peu, on serait presque à la coexistence, à la cohabitation, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que ce mouvement est assez disparate. En effet, les cheminots, je suis d'accord, c'est vraiment un cas à part. La SNCF, eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils défendent, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Enfin, aucun souci. Je veux dire, on apprécie, on n'apprécie pas, mais c'est clair. En revanche, sur d'autres catégories, catégorie, on voit bien quand même qu'il y a... Non, alors il y a il y a la défense. Alors,
ça
d'abord 95,
bien,
le lien à 95, c'est que 95, il y avait la Sécu, il y avait la Sécurité sociale et tout le monde, tout le monde était voilà, et les retraites, etc. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus diffus, donc il y a pas cette grève par procuration des Français qui est comme en 95. En revanche, c'est vrai que derrière ces différents mouvements, mais qui pour l'instant sont encore très loin de faire une convergence, il y a en effet, oui, le service public et puis une défense du modèle social à la française. Mais ce modèle social, c'est justement ce qui est un petit peu la cible de Macron et d'ailleurs également de Fillon pendant la campagne électorale. Alors, et les Français ont voté pour ça.
Emery Doliger, quand on entend justement ça, alors peut-être en effet convergence des luttes, peut-être elle n'existe pas ou peut-être qu'il y a peu de monde, mais on voit quand même que ces mouvements durent permanents. On voit quand même des colères qui sont là. Si on les prend depuis le mois de janvier, au départ elles ont été diffuses, on se souvient des gardes de prison, après il y a eu les EHPAD et puis maintenant il y a ça. On voit quand même que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, nous, on en parle tout le temps.
Oui, il y a trois choses. D'abord, un, ce sont des colères séquentielles, c'est-à-dire que chacune est bien isolée en fonction de son sujet. Deux, l'opinion ne suit aucune des colères séquentielles et n'apporte pas son soutien massif à l'une d'entre elles. Ce qui veut dire que, d'un point de vue de communication, parce que c'est mon sujet, le mouvement global ne peut pas imprimer. Parce qu'on n'est pas considéré de façon globale, contrairement à 95, où justement il y avait la Sécu, et là tout le monde était derrière. Donc c'est un mouvement qui a le hockey, qui revient régulièrement, qui fait son petit jeu en fonction du jour J, aujourd'hui, en France. Le 22 mars, pareil. Le 22 mai, ça fera pareil. Mais ça ne peut pas prendre, puisqu'il n'y a pas de cohésion globale. Alors, sur un sujet d'opinion.
Je voudrais vous faire écouter une chose à propos d'un combat qui est aujourd'hui qui est le plus fort et qui a le plus d'implication sur nos vies, c'est celui de la SNCF, puisque si l'Union syndicale n'était pas dans la rue cet après-midi, parce que la CFDT et FO n'avaient pas souhaité participer, elle l'était par contre pour adresser un même message à la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Nous ne voulons plus discuter avec vous et demandons à être reçus par Édouard Philippe et surtout fini de jouer selon Roger Dielsinger de l'UNSA Ferroviaire. On l'écoute.
On nous annonce des dates sans même qu'on nous en parle. Il y a des choix de posture unilatérale. Il faut que ceux qui prennent ces postures-là les assument. Donc aujourd'hui, de manière unitaire avec les autres organisations syndicales, on a franchi le pas et on a fait le choix de dire on s'adresse au Premier ministre parce que aujourd'hui, au niveau du ministère des Transports, force est de constater que ni négociation ni concertation. Un déficit de confiance au ministère des Transports, c'est gravissime.
Voilà, Roger Dielsinger de l'UNSA Ferroviaire. Marie-Claire Kaito, est-ce que c'est l'annonce de la date de la fin de recrutement au statut de cheminot actuel, c'est-à-dire au 1er janvier 2020, qui a fait déborder le vase?
Non, mais je crois que c'est très simple. Je veux dire, sur la SNCF, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concertation. Enfin, le Premier ministre, il a dit, on peut discuter, mais l'ouverture à concurrence n'est pas négociable, le statut de l'entreprise, c'est pas négociable, le statut des cheminots, c'est pas négociable. Donc, on vient négocier sur comment on va mettre ça en place. Enfin, je veux dire, franchement, c'est se moquer des gens. Je pense que ce gouvernement a décidé de se passer des syndicats, a décidé de passer outre ce qu'il appelle les corps intermédiaires, et il joue quand même avec le feu, parce que, il y a un moment donné, personne ne pourra dire la suite. Hein. Quand moi j'entends dire ça prendra pas, moi je pense que personne autour de cette table est capable de dire ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Mais en tous les cas, moi ce que je sais, c'est que les revendications des gens, elles sont concrètes, elles sont vraiment très fortes. Quand on prend les gens dans les EHPAD, par exemple, c'est comment soigner mieux les gens, comment avoir plus de moyens pour les soigner. Et profondément, moi je sens une jeunesse qui est très, perceptive sur les questions justement de service public, de partage des richesses et de sens du travail. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, on puisse le faire dans de bonnes conditions et que ça a un sens sur l'intérêt général et le collectif. Et ça, je ne pense pas qu'on peut le balayer d'un revers de main.
Pascal Richer, le fait aujourd'hui que les syndicats refusent de discuter avec Elisabeth Borne, est-ce que ça met à mal et c'est peut-être aujourd'hui ça met aussi à fin la méthode de concertation voulue par Emmanuel Macron, vendue comme ça, parce qu'on nous dit aujourd'hui c'est plus possible, tout est déjà écrit. Donc,
bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les syndicats ont claqué la porte, en fait. Et ils l'ont fait de façon unitaire. Alors là, c'est pour ça. Le coup, là, il n'y a pas de division de syndicats, en tout cas aujourd'hui. Et ils ont demandé à discuter directement avec le Premier ministre, ce qui est un classique dans les négociations.
Lui a dit non, d'ailleurs, il refuse.
D'accord. Philippe. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ces derniers jours, on disait le mouvement s'effrite, etc. En fait, visiblement, aujourd'hui, il y a eu plus de grévistes qu'hier. Il y a eu 23% contre 20%.
C'est ça.
Donc, enterrer ce mouvement à la SNCF, comme on l'a entendu dans certains médias ces derniers jours, me semble un petit peu hasardeux. Attendons de voir. Parce que visiblement, là, maintenant, la grève est prévue pour se prolonger jusqu'à fin juin. Enfin, je crois que ça a été... L'échéance a été reportée.
Alors, juste une chose aussi. Hier, vous savez, Emmanuel Macron a fait parler, suite à un dialogue un peu musclé avec des cheminots dans les Vosges. Il a parlé de ce terme terrible de prise d'otage à l'égard pour les cheminots de ce qu'ils feraient en France. Et ce matin, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur cette expression. On l'écoute, François de Rugy.
c'est jamais très agréable pour les utilisateurs du train.
Prise d'otage ?
Pour, bah, vous savez, ce mot, il a été régulièrement employé quand il y a des grèves. Mais c'est une image.
Vous reprendriez la formule à votre compte ?
Moi, en général, je ne l'utilise pas quand il y a des grèves, mais parce que, de toute façon, tout le monde le reconnaît. Personne n'a remis en cause le droit de grève.
Voilà, François de Rugy, ce matin, aux côtés de Jean-Michel Apathy, ce terme, prise d'otage, il l'a dit clairement, hein, Emmanuel Macron. Mais,
il est devenu très gênant et très embêtant chez nous, c'est-à-dire en France, depuis quelques années, parce que tout simplement, malheureusement, ce pays est frappé par le terrorisme, par de réelles prises d'otages. Et donc, c'est en cela que l'amalgame est insupportable. Bon, maintenant, le fait est que des centaines de milliers de Français aient des problèmes pour aller travailler, pour se déplacer, etc., bah, c'est quand même un constat réel
que fait
Emmanuel Macron. Donc voilà, non, mais il vaut mieux éviter ces termes. On avait remarqué d'ailleurs. Non, mais moi, je suis content. C'est comme privilège.
Non, mais ça existe quand on parle. Même quand il n'y a pas grève, on a souvent des problèmes pour se déplacer. Oui, hein. Moi, je prends régulièrement le métro, les RER. Je peux vous assurer que ça m'arrive souvent.
Oui,
et que je ne dis pas à ce moment-là que je suis prise en otage, mais qu'il y a souvent des pannes de signalisation, des pannes techniques.
C'est justement ce qui justifie la réforme.
C'est
pour les raisons que vous venez de dire que le gouvernement
justifie
l'investissement et la réforme.
On n'a pas investi, on est bien.
C'est 10 millions d'euros par jour, la réforme SNCF.
Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un cheminot sur quatre qui travaille pour rembourser les intérêts de la dette. Un cheminot sur quatre qui travaille pour rembourser les intérêts de la dette.
Juste pour finir sur le terme.
C'est
vrai qu'il vaut mieux éviter ça. Et en effet, de Rugy a raison, il aurait mieux valu que Macron s'en abstienne, de même que les termes de gréviculture, etc. Parce que c'est ça. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce que tout ça peut faire convergence ? On ne sait pas, en effet. Je suis d'accord avec madame. Aucun de nous n'est capable de dire ce qui se passera, y compris dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais vous savez, ce genre de mouvement, c'est la théorie de Mélenchon, qu'il n'a pas inventée d'ailleurs. Hein. On ne sait jamais quelle est l'étincelle qui peut mettre le feu à la plaine. Et cette étincelle, on ne sait jamais d'où elle peut venir. Donc, il vaut mieux éviter de paraître, ce qui est beaucoup reproché à cette équipe et à Emmanuel Macron lui-même, tout ce qui peut s'apparenter à de l'arrogance, une espèce de petit mépris, à un manque d'écoute.
Une chose, une dernière chose, après je vous libère en tout cas, Marie-Claire Caïto, mais une chose, quand vous voyez Laurent Berger, aujourd'hui donc secrétaire général de la CFDT, qui lui ne veut pas de convergence des luttes, il dit que ça ne fait jamais avancer la cause. Qu'est-ce que vous en pensez
Vous posez la question à Laurent Berger.
Mais est-ce que ça vous a déçu qu'il ne vous accompagne pas aujourd'hui
dans
la rue ?
Non, mais si vous voulez, nous à la CGT, depuis le départ, on essaye de travailler l'unité, parce qu'on pense vraiment que c'est comme ça qu'on peut arriver à satisfaire les revendications. Par exemple, on le voit très bien à la SNCF, il y a une unité qui est forte, et c'est pour ça que le mouvement tient bien. Donc c'est pour ça que Philippe Martinez s'est rendu à la réunion des 5 confédérations qui a eu lieu lundi, pour proposer, par exemple, qu'il y ait un 1er mai unitaire. Nous, on souhaite vraiment qu'il y ait l'unité qui puisse se faire au maximum.
La CFDT vous a dit non une nouvelle fois. J'ai l'impression qu'il y a un petit combat, non ?
La CFDT a dit non. FO a dit attendons que notre congrès passe. C'est leur congrès, c'est la semaine prochaine. Donc les choses, elles peuvent bouger dans le temps. Nous, on ne renonce jamais à l'unité.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'être passé ce soir, Marie-Claire Caïto, membre de la commission confédérale CGT. Merci d'être passé aux informés de France Info. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Cheminots, personnel hospitalier, postiers, fonctionnaires, étudiants, ils étaient aujourd'hui dans quelques 130 manifestations en France. La CGT avance ce soir le chiffre de 300 000 participants, 119 500 selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, le bilan du défilé est aussi de 7 policiers et un manifestant légèrement blessé. À la suite de débordements, 2 personnes ont été interpellées. L'intersyndicale d'Air France poursuivra la grève début mai, en plus déjà des 2 dates programmées, les 23 et 24. Avril. Les syndicats durcissent encore le ton à la veille de la date butoir fixée par la direction pour faire signer son accord concernant les salaires. Le djihadiste français Mehdi Nemouche renvoyé devant les assises en Belgique avec un complice présumé. Il comparaîtra après la tuerie au musée juif de Bruxelles. 4 morts, c'était en 2014. Pas de poursuite pénale au terme de l'enquête sur la mort de Prince. Le chanteur est décédé en 2016. La justice américaine n'a pu établir comment il s'était procuré l'analgésique qui a provoqué son décès. Et puis fini les steaks de soja, merguez vegan et autres goûts bacon. C'est une décision des députés aujourd'hui. Les produits alimentaires contenant une part significative de matière d'origine végétale ne pourront plus être présentés comme de la viande, éviter ainsi des pratiques commerciales trompeuses.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle une nouvelle fois des colères, puisque vous savez, il y a en ce moment les zadistes qui opposent leur diabolo au CRS. Bien sûr, il y a les étudiants qui voudraient faire un beau cadeau au gouvernement pour les 50 ans de mai 68. Mais il y a des mouvements de colère beaucoup plus profonds, de fond, qui durent et qui s'installent véritablement. Les retraités, par exemple, les collectivités locales et la fameuse limitation à 80 km/h sur la plupart des routes secondaires au 1er juillet. Alors ça, c'est vraiment au minimum une manifestation par semaine, une grogne qui se diffuse dans tout le pays. Emery d'Oliger, c'est assez étonnant. Bah oui, mais attends, je vais vers vous parce que.
Je vous en prie,
Non, mais on voit vraiment que c'est une colère qui dure, qui oui. vient des territoires ruraux. On attendait d'ailleurs Emmanuel Macron s'exprimer sur le sujet jeudi dernier avec Jean-Pierre Pernaut. Ce n'a pas été le cas. Il n'a pas dit quelque chose de véritable. Il a dit juste on va le faire. Pourquoi finalement cette colère semble si profonde?
Je vais en prononcer un gros mot. C'est une colère philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans cet espace de liberté. On dit qu'on va aller vite, qu'on peut aller de plus en plus vite, et il faut pouvoir avoir cette possibilité d'aller vite. Ouais. Et subitement, on nous dit ah ben non, tu vas être à 80 km/h, peut-être à 70, puis à 60, etc. Donc il y a une espèce de frustration. Donc il y a déjà ce jeu-là qui nous rapproche. Normalement, on se rapproche de la mort naturellement, et la vitesse normalement nous en éloigne parce que c'est tout ça, c'est philosophique. Et donc forcément, les gens sont totalement bloqués d'un point de vue psycho, peut-être, je ne sais pas, à voir. Ils sont totalement bloqués. Non, je délire pas complètement, mais je vous assure que vous les non, pas du tout. Quand vous les écoutez, c'est un problème de liberté et bien c'est sûr. Un problème de respect.
Bien sûr.
Ce n'est que ça. Donc s'ils n'ont pas la possibilité de dépasser les limites.
Ouais, Pascal Richer, on voit, ça fait partie de ces combats qui durent depuis longtemps et qui mobilisent véritablement celui-là.
Moi, ça me rappelle un peu le combat qui avait lieu contre la ceinture de sécurité.
Mais bien sûr, c'est une autre histoire de liberté.
Il y avait vraiment une révolte contre la ceinture de sécurité. C'était considéré comme une atteinte à la liberté. Pourquoi est-ce qu'on m'imposerait à moi de mettre une ceinture alors que je suis libre dans ma voiture, etc.
Et pourtant, ça sauve des vies, on a beau le dire.
Et pourtant, effectivement, rationnellement, rouler à 80 km/h, on perd à peine de temps, hein, puisque en général, on perd 3-4 minutes sur un trajet d'une heure. Quoi.
C'est ça.
Et ça sauve des vies. Il y a plein d'études qui le montrent. Enfin, il y a eu énormément dans plusieurs pays. Donc, rationnellement, on devrait dire tout le monde aurait accepté cela.
Et
ça coince. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt chez les hommes que ça coince. J'aimerais bien voir une étude.
On verra en tout cas. C'est pas loisir. Alors, c'est peut-être intéressant, mais on voit aussi quand même des gens qui vont vous dire moi, j'en ai marre parce qu'il y a 80 km/h, et puis après, il va y avoir ma retraite, et puis après, il y a ça. On a l'impression qu'il y a. Voilà, ça s'accumule et véritablement, et ça vient de là aussi.
Il y a un manque de pédagogie. En fait, moi, le problème récurrent avec tout ce que fait le gouvernement, la majorité, etc., c'est qu'il n'y a pas des personnes qui arrivent à communiquer de façon un peu évidente. Il y a tout qui tombe d'un coup et du coup, on ne sait plus où donner de la tête. Et les gens ont l'impression d'être assaillis par la hausse de la CSG, les 80 km/h et plein de choses. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une hausse. Enfin, en tout cas, on a les morts sur la route, ça augmente.
3800 personnes en 2017.
Ça augmente. Il n'y a plus cette tendance vers la baisse, donc il y a un problème en termes de sécurité routière. Il se trouve que pour les 80 km/h, les études d'impact, et une nouvelle étude est sortie encore cette semaine qui prouve qu'il n'y a pas de problème, que ça sauve des vies. Et en réalité, on ne perd que quelques minutes. En fait, cette interdiction, ça empêche surtout les personnes de doubler un camion.
C'est
et
ça.
En fait, les gens ont l'impression qu'en fait, on entrave leur liberté de conduire tranquille ou de faire un petit peu leur vie et ça les dérange. Quand le Sénat propose encore de changer, de moduler.
Oui, mais Fatima, il y a aussi beaucoup de gens. Non, parce que aussi là, vous avez peut-être un réflexe, excusez-moi de vous dire, mais urbain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture et de nouveau, on voit dans les territoires des gens qui sont obligés de prendre leur voiture et qui disent il y a des radars en plus.
Non, mais en plus,
je vois passer.
C'est pour ça qu'au-delà, je suis d'accord avec l'explication psychologique, c'est clair que son rôle, c'était le côté arrêter d'emmerder les Français. Par le président Bagnol, par Pompidou, qui était numéro un là-dessus. Mais il y a également la dimension symbolique, en effet, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les territoires, la région, la province, je ne sais plus de nos jours comment il faut dire pour être correct.
territoire,
très bien. Mais bien sûr, parce qu'ils sont les premiers concernés par cela, par ces déplacements. Et donc, c'est encore, disons, une petite manifestation, peut-être, de cette pseudo-arrogance parisienne. En tout cas, c'est ressenti comme tel. On voit bien que les politiques se sont emparés de ça.
Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron était contre Henri Vernet. C'est vrai
alors, c'est vraiment la mesure, il me revendique d'ailleurs, c'est la mesure d'Edouard Philippe, mais à raison, moi aussi j'applaudis à fond cette mesure. Il suffit d'avoir fait un stage de récupération de points, je sais très bien pour voir à quel point la vitesse est un élément
fondamental
dans les
accidents
et notamment sur les axes les plus sûrs.
Je vais pas être cynique, mais je veux juste donner un autre chiffre. On parle de 3800 morts et il y a 13 000 morts par la grippe. Il y a beaucoup de combats pour faire en sorte qu'il y ait moins de morts en France. Est-ce que c'était pas le combat trop tôt?
Ça, je ne sais pas.
C'est une question que je pose.
Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un côté... Oui, Fatima.
Moi, je veux dire, sur la dichotomie urbain, rural, etc. Le Sénat, c'est quand même le lobby des territoires.
Alors, je précise là, juste parce que le Sénat, en effet, a proposé voilà, qu'on fasse autre chose qu'on voit.
Je vais pas tout expliquer, mais c'est pas grave. Mais
enfin, il propose que les départements s'en occupent.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et le problème, c'est qu'en réalité, cette mesure, c'est parfait pour l'existence aussi politique du Sénat, pour revendiquer son attache au territoire, son lien avec les territoires. Quand les parlementaires, surtout les nouveaux parlementaires, ont du mal, les députés, à créer ce lien avec les territoires. Donc, en fait, le Sénat, c'est la chambre de ces territoires-là, de ces départements, et on continue encore dans la politique politicienne qui, malheureusement, parfois ne prend pas assez de hauteur, selon moi.
Très rapidement.
Oui,
très
ça fait partie des domaines vraiment régaliens de l'État, la sécurité routière, tout le monde est concerné. Ce serait quand même un petit peu baroque, un pays où dans chaque département, on aurait des signalisations et des codes de la route différents, finalement. Et vous avez raison, en effet, il y avait c'est vraiment Édouard Philippe qui a porté cette mesure-là. Macron a bien vu un petit peu les colères qui montaient, les retours, notamment des élus marcheurs, sans jeu de mots, en l'occurrence. Et il s'est posé la question au moment, et puis finalement, non, ce sera bien tranché. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet.
Ouais. Allez, en tout cas, dans un instant, on parlera de tous ces sondages autour des 1 an d'Emmanuel Macron. On ira aussi faire un tour bien dans les Caraïbes pour parler de Cuba. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
C'est souvent quand nous sommes persuadés de connaître quelque chose que nous passons à côté. Gamme Audi A3. Vous pensiez la connaître? Venez la découvrir. Audi A3 Sportback, Audi A3 Berline, Audi A3 Cabriolet et Audi S3. Découvrez la gamme Audi A3 comme vous ne l'avez jamais vue. À partir de 299€ par mois sans apport, avec entretien et extension de garantie offerts.
Offre en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km pour une Audi A3 Sportback. Réservée aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr.
Choisir les cartouches HP Authentique vous apporte bien plus qu'une qualité exceptionnelle. Depuis 10 ans, HP produit des cartouches en ajoutant du plastique recyclé. En 2016, 3 milliards de bouteilles en plastique ont été réutilisées et aujourd'hui, 80% des cartouches HP Authentique comprennent des matériaux recyclés. Réinventez votre impact avec HP sur hp.com/fr/je-recycle.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
L'été va se poursuivre demain, un beau ciel bleu au réveil, quelques grisailles tout de même le long de la Manche, un peu de brouillard dans l'intérieur de la Bretagne et du Nord-Pas-de-Calais, mais ça ne durera pas, le soleil s'installera comme ailleurs. L'après-midi, quelques nuages se développeront sur l'ouest du Massif central et les Pyrénées avec une rare ondée. Le vent d'autant sera encore sensible, jusqu'à 50 km à l'heure. Attention aux avalanches, le risque sera encore fort sur Savoie et Haute-Savoie. Il fera 9 à 15 degrés le matin, 9 à Nancy, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Lille, 14 à Deauville, La Rochelle, Toulouse et Cannes et 15 degrés à Paris. L'après-midi, souvent 25 à 29 degrés, un peu moins sur les régions voisines de la Manche et près de la Méditerranée avec 21 à 26 degrés.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'attaque en Ghouta orientale sur laquelle les inspecteurs de l'OIAC doivent enquêter. Cette attaque remonte maintenant à 12 jours et la délégation n'a toujours pas pu entrer à Douma. Moscou accuse les rebelles syriens de leur empêcher l'entrée. Aujourd'hui, on a appris que l'armée française n'avait pas été parfaitement opérationnelle lors des frappes occidentales qui ont suivi. Franck Cognard, deux des trois frégates françaises n'ont pas pu tirer leurs missiles.
Selon des blogs spécialisés, non seulement il y a eu ce souci de mise à feu pour les missiles de croisière de la marine, mais un Rafale également a connu un problème, ne parvenant qu'à tirer un seul de ces deux missiles Scalp. Concernant les frégates d'abord, elles étaient trois en Méditerranée cette nuit du 14 avril. Les deux qui auraient dû projeter chacune trois missiles de croisière n'ont pu le faire. Et le temps de relancer le système, la fenêtre de tir était dépassée. C'est pour cette raison que c'est la troisième frégate, celle de réserve, qui a fait feu. Alors certes, l'état-major français affirme que tous les missiles ont touché leur cible. Mais seuls 12, 9 pour l'armée de l'air et 3 pour la marine ont été tirés, sur 16 prévus, 10 pour les aviateurs et 6 pour les marins. C'était la première fois que des navires français utilisaient des missiles de croisière et pour l'instant, pas d'explication officielle sur ce raté technique.
Franck Cognard, et d'après le Pentagone, Bachar el-Assad a toujours les moyens de mener de nouvelles attaques chimiques. 119 500 manifestants d'après le ministère de l'Intérieur, 300 000 selon la CGT, quelques 130 cortèges signalés dans toute la France pour une journée voulue par le syndicat comme comme une convergence des luttes. Le défilé parisien a dégénéré avec un manifestant hospitalisé en état d'urgence et 7 policiers plus légèrement blessés. Une quinzaine de campus toujours bloqués contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. L'université de Metz est un cas à part ce soir puisqu'une assemblée générale a voté la poursuite du blocage quelques heures après un vote électronique qui avait décidé d'une reprise des cours. Cet après-midi, une large majorité des présidents d'université signaient une tribune dans le quotidien Le Monde pour réclamer plus de moyens pour permettre la mise en place de cette réforme, le système Parcoursup dont Rennes 2 a décidé de se passer pour cette fin d'année. Toujours plus de détenus dans les prisons françaises, même si cette augmentation a ralenti. Il y a aujourd'hui 70 367 personnes derrière les barreaux pour moins de 60 000 places. Dialogue interrompu entre les cheminots et le gouvernement. Les syndicats ont quitté les négociations avec la ministre Elisabeth Borne pour demander à être reçus directement à Matignon. Édouard Philippe refuse. Ceci est au terme d'une nouvelle journée de grève. La prochaine, ce sera lundi. 20h33 sur France Info. La suite des informés, c'est jusqu'à 21h avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Et eux, ils ont hésité entre tongs et sandales aujourd'hui, mais comme nous avons un fan de Yannick Noah, il est venu pieds nus. Voilà, soyons tolérants. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, Fatima El-Wazdi de Politiquel, Pascal Richer de L'Obs et le communicant Emery Doliger. Dans moins d'une semaine, ce sera les un an de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle. Vrai chambardement, cette élection présidentielle, dont on ressent encore les répliques aujourd'hui, puisque à 1 million de voix près, Jean Lassalle est au second tour quand même. Alors peut-être l'avez-vous remarqué, mais les médias rivalisent d'enquêtes, de sondages et d'études concernant la première année d'exercice du président de la République. Et si Emmanuel Macron, l'homme qui a mis un copyright sur l'expression en même temps, n'était pas véritablement connu des Français avant son élection, désormais ils ont un avis plus étoffé, mais toujours pas tranché. Ainsi, pour certains instituts de sondage, il est apprécié par 42% des Français. Un autre explique que 58% de nos concitoyens seraient mécontents de son action. Pour IFOP, 63% des sondés trouvent qu'il sait où il va, mais ils sont 73% à le trouver trop autoritaire. Alors que pour BVA, 57% jugent que la France a gagné sur le plan mondial, mais le serait moins sur le plan démocratique. Macron a donc tenu promesse sur le plein emploi, mais pour les instituts de sondage, une image encore en construction selon l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira.
Je crois qu'il ne perçoit pas bien ce que sont les ressorts de la discorde dans une société et la nécessité de créer le cadre, en tout cas, de permettre que fonctionne le cadre dans lequel s'exprime cette discorde. Donc voilà, mais je n'ai pas envie de faire du président de la République un point de fixation à partir duquel part ma pensée ou arrive ma pensée.
Voilà, l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, ce matin sur France Inter. Pascal Richer, là, il y a un des sondages que j'ai cité, qui est de l'Obs, d'ailleurs, que vous avez sorti cette semaine. En effet, vous avez fait une étude, si je vous assure, sur Emmanuel Macron, et notamment sur le sentiment. Mais juste, comment expliquer ces différents points de vue sur Emmanuel Macron, à votre avis, de la part des Français, quoi?
En fait, ils sont assez cohérents, tous ces sondages, si on les analyse. En gros, les Français pensent que avoir Emmanuel Macron aujourd'hui est une mauvaise chose, de façon majoritaire, mais il n'y a pas d'alternative crédible. Donc, Wauquiez à 8% dans un des
sondages. C'est ça, exactement. C'est-à-dire
que si Wauquiez avait été à la place de Fillon, il aurait eu 8%. Fillon a eu 20% de mémoire.
Oui. Hein?
Donc ça, ces chiffres-là sont très, très difficiles à analyser. Le reste, en gros, les Français trouvent que c'est quelqu'un de déterminé, qui nous représente plutôt bien sur la scène internationale. Il sait où il va. Il est réformateur, tout le monde le reconnaît. En revanche, il fait de la politique à l'ancienne. Et ce qui est vrai, quand on regarde ce que Macron a annoncé comme candidat en faisant son mouvement En Marche, en proclamant que la démocratie serait participative, les start-up nations, l'horizontalité, etc. Et maintenant, une espèce de président très classique, vertical, un petit peu Bonaparte, etc. Donc les Français ont raison de le percevoir comme de la politique assez classique. Et puis sur la politique sociale, ils considèrent qu'effectivement, il n'a pas répondu à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ça, je pense que son péché originel, c'est sa politique fiscale, avec les cadeaux qu'il a fait sur l'ISF, sur la flat tax, et qui le pénalise. Et à mon avis, ça va être un petit peu son sparadrap du capitaine Haddock jusqu'à la fin de son quinquennat.
Emery Doliger, quand on voit justement ce sentiment, cette perception de moins de démocratie en France par rapport aux personnes interrogées depuis l'élection d'Emmanuel Macron,
C'est l'effet des réformes. C'est l'effet de la somme des réformes qu'il a lancées de façon au pas de charge.
C'est les ordonnances, choses comme
c'est
ça.
C'est les ordonnances sur la partie économique. C'est une concertation un petit peu plus développée sur la partie sociale. Et puis c'est surtout la rencontre d'un homme qui épouse une fonction et qui en épouse ses trois costumes. On dit souvent que le président a trois costumes, qui sont le costume monarchiste, le costume empathique et le costume sacrificiel. Là, il a épousé les deux premier, peut-être le troisième, je ne lui souhaite pas trop, mais enfin, on ne sait jamais. Il est en train de les incarner. Et on est obligé, parce qu'il y a une tradition française, où le président a cette posture un peu au-dessus de tout le monde, etc. etc. Donc, il a une volonté de départ qui est effectivement, d'un point de vue de communication, d'aller vers les autres, et donc il est sans arrêt vers les autres. On le voit sans arrêt filmé sur les réseaux sociaux, et dans la presse, il est filmé de dos, donc on voit bien les autres, etc.
Et surtout, aussi, il y a une logique de parlerait moins donc, aussi, Emmanuel Macron, il est obligé de le faire, parce qu'il n'y a personne autour de lui, on a l'impression.
Oui,
cette impression de solitude.
Oui et non, mais on est en France. En France, c'est le président qui a la parole. Mm. C'est-à-dire que si un ministre parle derrière, il parle, mais si le président parle, c'est lui qui a raison.
Oui. Pascal Richet, je vous voyais, non. Fatima Loisy, quand vous voyez justement ces différents sondages des Français, on a l'impression, voilà, sont assez divisés, d'ailleurs, toujours sur la personnalité. Un an après, vous pensez qu'ils le connaissent, leur président?
Je pense que Emmanuel Macron a réussi son élection. Il a tué son opposition politique aujourd'hui. Il a un champ libre tellement ouvert, un champ de possibilités, qui fait que même si il pense potentiellement déjà à sa réélection dans 4 ans, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure il va pouvoir maintenir le rythme actuel. C'est-à-dire que ce qu'on disait il y a quelques instants, que les Français ont l'impression que tout leur tombe dessus, etc. Est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le plus à même à préparer l'avenir? Moi, je pense que oui, à titre personnel. Maintenant, est-ce que les Français ont ce même sentiment-là? J'en suis pas si sûre. Quand il se concentre, quand il est à peu près sur tous les tableaux, que ce soit sur le plan de l'Europe, sur le plan de la politique internationale, sur le plan de la politique intérieure, alors que normalement, c'est le domaine réservé du Premier ministre, on peut se poser des questions sur comment, dans le futur, ça va s'agencer. Quoi. Ouais. Il n'y a pas de pédagogie du gouvernement, il est obligé de parler, c'est ce qui a été dit. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être amélioré au niveau de l'exécutif.
Henri Vernet, ce côté moins démocratique, les Français juste moins égalitaires également, c'est ça aussi, c'est le côté force, comme on dit, voilà, ça descend depuis ces nuages.
Oui, c'est peut-être un effet Wauquiez, rappelez-vous, il y a quelques semaines, là, quand il s'est fait prendre à la suite de son plein gré, comme il disait, il avait dit notamment qu'à l'Assemblée, il y avait des guignols et qu'on était dans une dictature, avait dit Wauquiez. Donc, je ne pense pas que les Français suivent Wauquiez dans le sondage. Mais quand même, de toute façon, la France n'est pas une démocratie aussi achevée que certains de nos voisins, l'Allemagne, par exemple, ou les États-Unis sur certains plans, etc. Il y a toujours une tentation autoritaire dans notre pays. Et Macron, là, c'est même pour ça que Macron a été élu, parce que François Hollande, lui, en quelque sorte, avec lui, ça s'était un petit peu délité, cette image du président qui est tellement au-dessus des autres, la monarchie républicaine dont on parle avec la Ve République. Il a été élu pour ça, mais une fois que vous le subissez, que vous l'approuviez, puisque par exemple, dans votre cas, vous dites que vous approuvez, etc. Mais de toute façon, à un moment, ça devient pesant. C'est-à-dire que c'est notre paradoxe à nous, Français. On a un petit peu ce recours un peu perpétuel à la figure du père, ou peut-être un jour d'ailleurs de la mère, hein, peut-être un jour ce sera une femme, mais cette image de l'autorité, mais en même temps, quand elle pèse trop sur nous, eh ben, ça nous embête un peu. Alors, deuxième chose, le côté, alors c'est vrai qu'il a ce côté, vous avez cité Bonaparte, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on est dans le bougisme, il a inventé en politique le bougisme, et on a l'impression d'ailleurs maintenant qu'on est retourné un petit peu dans une campagne électorale, on a vu hier les images dans les Vosges, à Saint-Dié, où il est comme ça au corps à corps, ça rappelait les images de l'entre-deux-tours quand il était à Amiens, comme s'il avait besoin de se ressourcer et de montrer, et là je rejoins un petit peu les sondages, même si nous, apparemment, on n'en fait plus, c'est qu'on a quand même des Français qui sont encore en attente. L'état de grâce, certes, il est fini, il n'a jamais vraiment démarré, mais beaucoup, un tiers, je crois, lui donne encore sa chance, en quelque sorte. Et que fait-il? Eh bien, il y a le tapis de bombe médiatique, mais également le tapis de bombe des réformes qui ne s'arrête jamais.
C'est ça. Alors, on va continuer à en parler dans un instant. Oui, ne vous inquiétez pas. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
4 universités restent totalement bloquées, une dizaine de sites sur 400 perturbés. Sciences Po Paris n'est plus bloquée. Une assemblée générale nouvelle est prévue dans la soirée. Confusion à Metz. Le blocage a été reconduit en AG, tandis qu'un vote électronique a indiqué une reprise des cours. Un slogan dans les rues de Paris aujourd'hui: public plus privé plus étudiants ensemble, stoppons les régressions sociales. Côté participation, la CGT parle ce soir de 300 000 manifestants dans toute la France. Le ministère de l'Intérieur, lui, 119 500 personnes dans la rue. Édouard Philippe ne recevra pas les syndicats qui ont décidé de boycotter les négociations avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports. CGT, Sud, UNSA et CFDT faisaient remarquer que de récentes décisions sur le ferroviaire étaient annoncées ces derniers jours depuis Matignon. La page se tourne pour Cuba, la fin de 60 ans de règne des frères Castro. Miguel Díaz-Canel succède officiellement à Raúl Castro à la tête du pays. Il était l'unique candidat élu par les députés à 99,83%. Un nouveau président qui s'engage à poursuivre la révolution. Et puis Vincent Bolloré s'en va et installe son fils Yannick à la présidence de Vivendi. En forme de clin d'œil, le milliardaire cite un passage de Versailles, téléfilm de sa chaîne Canal+. Quand Louis XIV dit à son arrière-petit-fils « Tout ça va être à toi », Yannick Bolloré a 38 ans. Il est actuellement à la tête du groupe de publicité Havas.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, en tout cas, on a les références qu'on peut. Hein. C'est vraiment, c'est assez étonnant, en tout cas, de citer, c'est vrai, Versailles en plus. Bref. Donc, on parle d'Emmanuel Macron, donc un an après son élection. Il y a énormément de sondages en ce moment, d'études qui parlent. Cette perception des Français par rapport au président de la République, elle est assez. On l'aime pas, Emmanuel Macron. C'est un peu le en même temps, voilà, sentimental, même s'il y a une majorité aujourd'hui, 58% des Français, qui ne se disent pas satisfaits de son action. Une chose, tout de même, Emery Doigé, on le voit en ce moment, dans les facs, là où on a fait intervenir des CRS, Notre-Dame-des-Landes, les CRS. On a vu aussi même le deuxième débat où il y avait une certaine tension. Il veut aussi toujours montrer son autorité, Emmanuel Macron.
Vous mélangez des trucs, Jean-Mathieu, si je peux me permettre. Les CRS et le deuxième débat.
Non, mais quand je disais, voilà, il aime bien en fait, voilà, montrer son autorité aussi, Emmanuel Macron. L'avait pris à. On s'était demandé s'il y avait un côté régalien chez lui, vous en souvenez, pendant la campagne.
Absolument. On se souvient très bien de ce débat-là. Voilà. Mais c'est un président de la République, il épouse. Et ce que je disais il y a deux secondes douce, c'est il a pris le costume du roi, du monarque, du président. Donc forcément. Il y a l'ordre qui va avec, il y a la défense des intérêts de la France qui va avec, l'Europe par exemple, il y a la volonté de rayonnement à l'international, Trump, etc. etc. Donc il épouse complètement la, j'allais dire caricature, mais l'image qu'on se fait du président en France. Donc oui, il envoie les CRS pour établir l'ordre républicain à la ZAD...
Notre-Dame-des-Landes,
merci. Il envoie les CRS...
Dans les
facs. Et puis, il secoue un petit peu Edoui Plenel et Bourdin.
Oui, alors, Pascal Richer, il y a quand même une chose. On a l'impression, je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui était tout seul. C'est-à-dire que pour défendre ses réformes, c'est lui, en fait. C'est-à-dire qu'il a dit, je parlerai moins que les autres. Il a effacé son premier ministre. Il n'existe pas trop médiatiquement Édouard Philippe. Il y a les ministres aujourd'hui ne peuvent parler que de leur dossier, ils n'en parlent jamais des autres. C'est pas un risque d'être tout seul, ben, comme ça.
Oui, moi, il est devenu tout seul le jour où il est arrivé à l'Élysée, en fait. Ouais. Hein. Il y a Pascal Pavajou, le nouveau patron de FO, l'a résumé d'une phrase. Il dit. Macron, c'est « je pense, donc tu suis ». Effectivement, c'est ça avec tout le monde.
Ouais.
Il est seul, il essaye d'établir un lien avec le peuple, et donc tous les corps intermédiaires doivent s'effacer. Hein, il refuse de discuter avec aucun des corps intermédiaires. On l'a vu avec les syndicats, par exemple, hein, il n'y a pas vraiment de discussion. Mais on l'a vu aussi avec les juges, on l'a vu un petit peu avec la presse. Il a donné aucune conférence de presse depuis son arrivée à l'Élysée. Et je n'ai pas l'impression qu'il entende le faire. Donc, il refuse les contre-pouvoirs, il préfère agir seul et donner des ordres, caporaliser son parti. Hein. Son parti est devenu quand même...
Son mouvement, attention, il faut dire mouvement. Alors, attention, parce que c'est eux, ils disent mouvement.
C'est vrai,
faut surtout
vrai,
parce que c'est
vrai,
le nouveau
c'est
monde,
vrai.
Vous savez, parce que c'est ça.
Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même un contraste par rapport à ce qu'il était quand il était candidat. Parce que quand il était candidat, il présentait une image beaucoup plus moderne que cette posture comme ça Bonaparte Louis XIVienne
royaliste. Oui, c'est assez bizarre d'ailleurs, hein, Bonaparte Louis XIVienne. Une chose tout de même, Henri Vernet, on voit que c'est une personnalité qui agit moins, on l'a vu quand même aussi sur le reste du continent maintenant européen, puisque son idée, on sent que c'est un peu de mal à passer, parce que lui, il veut faire la même chose que ce qu'il a fait à la France hier sur En Marche. Là, le problème, c'est comme lui a dit un député, ben non, il y a 28 pays à convaincre quand même, et là, aujourd'hui, il a rencontré Angela Merkel. On sent bien que c'est pas l'amour fou entre les deux, hein, maintenant. Hein.
C'est, ou alors c'est de l'amour un petit peu déçu, parce que ça avait quand même commencé très fort, et Merkel l'avait accueilli avec des paroles assez lyriques et assez enthousiastes, même si c'est pas exactement son genre, mais justement là, elle avait trouvé que enfin il y avait un Français qui faisait des promesses avec, en donnant l'impression qu'il allait les tenir, et des promesses dures, de réformes dures. Bon, bah, ça, oui, c'est fait, sauf que les réformes patinent un petit peu. Moi, je trouve que c'est quand même important, le thème de l'isolement politique, hein. Ouais. Ça, c'est vrai que ça manque énormément. Il manque de poids lourd politique dans ce gouvernement, il manque de poids lourd politique à l'Assemblée, la caporalisation, ça fait mal. On parlait de démocratie française tout à l'heure. Et ben là, par exemple, quand on voit que le président de leur groupe empêche les députés LRM de déposer des amendements sur la zone d'immigration, etc., on est quand même une démocratie qui manque de maturité. Je reviens juste à votre thème. Non, ce qui se passe, c'est qu'Angela Merkel, elle n'a plus les mêmes moyens qu'elle pensait avoir quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire qu'entre-temps, ben, elle-même s'est fait réélire un petit peu sur la corde. Oui. Elle a là une coalition où certains, dont, que ce soit ses alliés CDU, CSU, donc la droite conservatrice, c'est assez classique, ils veulent pas entendre parler des projets de Macron. Vous savez qu'il veut notamment une zone euro beaucoup plus interventionniste, avec un budget, avec un ministre beaucoup plus solidaire. Mais même la composante SPD, donc social-démocrate de l'équipe de Merkel, elle aussi est assez réticente. Donc Merkel, c'est pas tellement qu'elle aime plus Macron, qu'ils sont déçus, c'est surtout qu'elle a pas vraiment les moyens d'agir. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en effet, le Big Bang européen dont rêvait Emmanuel Macron, il rêvait en effet de mettre cette Europe en marche. Là, on voit pas du tout comment il va y arriver.
C'est compliqué.
Mais
moi déjà.
Oui, il y avait un papier dans Le Monde il y a 10 jours qui montrait que avec la perte de Hollande, étaient renvoyés à leurs chères études un certain nombre de ministres qui avaient fait les 20 dernières années. C'est un symbole, mais quand Macron a été élu, il a eu effectivement une chambre à l'Assemblée où 300 députés, dont les deux tiers, voire les 4/5, sont neufs. Donc ne connaissent rien. Donc je rejoins complètement le point qui est de dire il manque de maturité, mais d'un autre côté, c'est normal, puisqu'on a un certain nombre de nouveaux souffles qui arrivent. Et oui, d'un point de vue de communication, il prend le lead parce que forcément, les députés En Marche sont un peu justes en termes de communication.
Oui, mais c'est un problème. Mais même les ministres, il n'y a pas de paratonnerre, en fait. Aujourd'hui.
Je ne dis pas que c'est pas un problème. Ouais. Et je ne défends pas le fait que ça peut l'être ou ne pas l'être. C'est juste, d'un point de vue de positionnement, il est contraint à prendre tout sur lui parce que pour l'instant, de l'autre côté, c'est pas encore prêt.
Mais Fatima Loisy.
L'histoire nous dira si c'est une bonne chose d'avoir des personnalités de la société civile, des experts, entre guillemets, de la société civile, dans un gouvernement ou même à l'Assemblée. C'était une question qu'on se posait. Moi, j'étais plutôt partisane de la diversification et de la diversité en général des profils politiques, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les professionnels de la politique, ça s'essouffle en termes d'idées de propositions et qu'on rentre vraiment dans des logiques politico-politiciennes. Ici, que ce soit au gouvernement, quand on voit Elisabeth Borne, on n'entend pas assez Jacqueline Gourault aussi, par exemple, sur la loi Mais
il y a un fonctionnaire.
Oui. Vraiment. Mais si Nicolas Hulot.
C'est un haut fonctionnaire. Oui. C'est que des hauts fonctionnaires, ces ministres.
C'est, Nicolas Hulot, c'est pas un haut fonctionnaire. Mélanie Chappa, c'est pas un haut fonctionnaire. Qui d'autre. Enfin, je. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ministres qui se démarquent, qui sont excellents communicants. Je pense à Gérald Darmanin, par exemple. Mais il y en a. Mais c'est pas un
très politique.
C'est quelqu'un d'extrêmement politique. Il était maire, il était député très jeune, il était dans tous les sacs de pouvoir depuis des années, etc. Il faisait pas partie du quatuor avec Thierry Soler, enfin toute la clique, etc. Donc c'est quelqu'un quand même d'éminemment politique. Mais c'est ce qui manque, je pense aussi. Est-ce qu'on n'atteint pas les limites de la société civile au Parlement? On peut se poser la question. On verra dans 5 ans.
Et même pour aller dans votre sens, même nous qui interrogeons souvent les députés, même les députés En Marche Société Civile sont très peu mis en avant, hein, d'ailleurs, même par le parti, le mouvement plutôt d'Emmanuel Macron. Allez, dans un instant, on va parler de Cuba, vous savez, où une page se tourne, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Dans l'affaire Tariq Ramadan, les juges d'instruction demandent l'expertise de la robe de l'une des plaignantes, la troisième femme qui a porté plainte pour viol. Elle assure que son vêtement contient une trace de sperme de l'islamologue laissée au cours de l'un des 9 viols dont elle l'accuse. Le débat sur la loi asile et immigration débordera sur le week-end. Il devait se terminer vendredi, mais les discussions sur ce texte controversé prennent du retard. Les députés ont voté ce matin l'extension de la réunification familiale. La nouvelle loi pour l'université n'est en rien une sélection, mais elle impose de déployer des moyens humains. C'est avec cette formule que 63 présidents signent aujourd'hui une tribune dans Le Monde. Ils réclament des moyens humains et financiers pour organiser une meilleure arrivée, un meilleur accompagnement des élèves. Cheminots, étudiants ou hospitaliers, ils participaient aujourd'hui à quelques 130 manifestations dans toute la France, 300 000 participants selon la CGT, 119 000 selon le ministère de l'Intérieur. La fin de deux jours de grève à la SNCF, la reprise progressive du trafic est annoncée par la direction pour demain matin. Et puis la grève des trains, la grève des avions ne semble pas atteindre le moral des fans de rugby. Le Racing 92, seul Français encore en lice pour la Coupe d'Europe de rugby, attend 2000 de ses supporters dimanche prochain pour sa demi-finale face à Munster à Bordeaux. 3000 Irlandais sont également attendus.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors pour toute personne ayant vécu en France à la fin des années 90, cette phrase est coutumière. Oh bah je connais bien Cuba, j'ai acheté l'album du Buenavista Social Club. Hein. Oui c'est gênant, mais parfois on ne se rend pas compte. Cuba, destination de vacances, devenue presque classique pour les tours opérateurs, mais aussi l'un des derniers vestiges de la guerre froide. Aujourd'hui, moment historique pour l'île, puisque pour la première fois depuis 60 ans, l'île n'est plus dirigée par un Castro. En effet, désormais, l'homme fort de Cuba, il faut s'y habituer, s'appelle Miguel Díaz-Canel, 57 ans, pur produit du parti communiste cubain, né en 1960, il n'a pas connu la révolution, mais ne semble pas plus flexible pour une ouverture du régime. D'ailleurs, son prédécesseur Raúl Castro, 12 ans de présidence, reste à la tête du Parti communiste, le seul autorisé à Cuba. Il y avait donc un très 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 gros suspense avec ce seul candidat à la présidence. Et ça change pour que rien ne change, selon l'écrivain cubain exilé en France, Jacobo Machover.
Miguel Díaz-Canel est un illustre inconnu et il a été désigné par Raúl Castro d'une façon fort peu démocratique. Le seul suspense, c'est de savoir s'il y aura 603 ou 604 voix en sa faveur à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, c'est-à-dire le Parlement croupion de Cuba.
Voilà, l'écrivain cubain exilé en France, Jacobo Machover. C'est vrai que Pascal Haché, c'est toujours, on a toujours l'impression que c'est un pays à part, Cuba. Quand on en parle aujourd'hui encore, on le voit, ça prend une importance de parler aujourd'hui de l'île de Cuba, qui reste quand même un pays où on a l'impression, quand on y va d'ailleurs, qu'on est encore dans les années 60.
Ah on prend une machine à remonter le temps, et effectivement, avec ces vieilles voitures, toutes ces rues déglinguées, Cuba n'a pas bougé. Et l'économie de Cuba va très mal. Le seul moteur économique, c'est un petit peu le tourisme, ouais, et un petit peu l'argent qui vient des expatriés cubains.
Est-ce que ça va changer quelque chose d'après vous là?
On sait rien. Je sais pas. Alors effectivement, c'est un pur produit du système. Le cube a été mis par Raúl Castro et la clique du Parti communiste. Mais on sait jamais. Ce type-là peut se révéler. Gorbatchev, quand il a été nommé, personne ne pariait sur la glasnost et la perestroïka. On sait pas. Je pense qu'il y a quand même des forces qui poussent à ce que Cuba s'ouvre. Déjà, il y a l'exemple chinois. Il voit bien qu'un pays peut être communiste et puis
garder l'appareil, marché. Et
faire, ça peut les tenter. Il y a tout ce qui est numérique. Moi, j'y suis allé à Cuba il y a pas très longtemps, et en fait, les gens se débrouillent pour se connecter. Donc, ils lisent le Miami Herald et d'autres journaux. Ils voient bien ce que disent les autres Cubains à l'étranger, etc. Donc, il y a une ouverture qui se fait, et je pense que à un moment, le système va craquer.
Ouais, c'est ça. Henri Vernon, on se souvient en 2016, au moment de l'ouverture, quand Barack Obama a rencontré Raúl Castro, et puis il y a eu l'élection de Donald Trump qui a refermé. Aujourd'hui, votre avis, vous, ça peut changer quelque chose où on est encore, quand on voit Raúl Castro qui dirige quand même toujours le Parti communiste.
Le Parti communiste, mais enfin, c'est quand même un vieux monsieur, quoi, 87 ans, et il a l'âge de faire un retraité, y compris de la politique. Même en France, on en a plus tellement de cet âge-là. Donc, je suis totalement d'accord avec Pascal Richer, notamment la comparaison avec Gorbatchev, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il peut, ce type-là, on le connaît pas. On sent quand même bien que cette société, elle est exaspérée par ces décennies de non-changement, de privation de liberté. Tout à l'heure encore, je crois que c'était sur votre antenne, on entendait des reportages, alors non pas de gens exilés, de gens qui sont là-bas et qui sont à Cuba et qui parlent, parce qu'en effet, sous l'effet du numérique, sous l'effet des progrès technologiques, de toute façon, toutes les sociétés épousent un petit peu la modernité. Et donc maintenant, les gens parlent à Cuba. Ils parlent en effet quand on y va, et puis ils parlent aux reporters. Et j'ai quand même été vraiment consterné d'entendre des gens qui, aujourd'hui encore, sont emprisonnés pour déviance le minimum de la ligne du gouvernement. Donc on en est encore là dans ce pays, il y a vraiment de la marge. Ce qu'il faut espérer, c'est que, oui, la Chine, ça peut être un bon exemple, disons, sur le plan un petit peu de l'ouverture sociétale, etc., mais qui n'en conserve pas le système politique. C'est-à-dire que si c'est pour qu'un parti communiste ou autre, en tout cas un parti unique, continue de verrouiller tout ça, non, il faut vraiment, pour que enfin ce soit plus Cuba sans le soleil, comme disait
exactement Macron. Voilà, Emery Deliger.
Pour répondre à votre question, il y a un symbole qui est assez fort, c'est que Raúl Castro a finalement démissionné le jour anniversaire de la tentative par la CIA d'investir Cuba lors de la fameuse attaque de la baie des cochons en 1961.
Sous Kennedy.
Donc, il y a la question qui se pose de savoir si ça va être un peu pareil. Je pense que ça risque d'être un petit peu pareil pour un petit bout de temps quand même.
Vous avez entendu,
les symboles sont forts.
Il veut continuer la révolution, toujours, on est toujours là.
Oui, avec 99,83% qui votent pour son candidat.
Voilà, Fatima El Ouazdi, quand vous voyez ça justement aussi, quand on parle de ces pays aujourd'hui qui sont des reliques de la guerre froide, comment vous regardez ça?
Alors, moi qui suis jeune, même si j'ai étudié la crise des missiles de Cuba à l'école, je n'étais pas née en 90 à cette époque-là, mais ce que je veux dire ici, et ce qui est important pour moi, c'est que dans les régimes autoritaires, il y a de plus en plus des volontés d'ouverture et de donner davantage de liberté aux populations, parce que notamment avec le numérique et la révolution, transformation numérique des sociétés, l'accès à l'information est beaucoup plus évident. C'est impossible de bloquer l'accès à l'information, bloquer l'accès à Internet.
Une chose, quand on va à Cuba, on se rend compte que quand même, pour trouver du Wi-Fi, il faut aller devant les hôtels, hein, etc.
Il faut se mettre à certains endroits.
J'ai vu des avec des systèmes clandestins, dans leurs murs.
Ah, bien sûr. Exactement. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ce que recherche aussi le gouvernement. Il ne veut pas aussi diffuser un Wi-Fi gratuit.
Il y a cette question-là de donner un petit peu de liberté aux personnes. Pourquoi pas garantir un meilleur accès au débit pour tous et toutes à Cuba. Je pense par exemple au prince héritier saoudien qui lui aussi adopte une position d'ouverture, de liberté. Il laisse les femmes aller au cinéma, il ouvre des cinémas alors que dans la culture wahhabite, c'est totalement, c'est contre nature. Il y a quand même cette volonté d'ouverture parce qu'on n'a pas envie de se faire renverser par le pouvoir.
En tout cas, c'est une toute petite volonté d'ouverture. En tout cas, on verra bien ce qui se passe puisque donc, depuis ce soir, donc, Miguel Díaz-Canel, c'est le nouveau président de Cuba. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Emery Deliger.
Merci beaucoup. Passé.
Merci, Fatima El Ouazdi. La une Merci. De l'Obs, Pascal Richer.
Napoléon intime avec ses dernières lettres inédites. Tous vos auditeurs qui s'intéressent à l'histoire devraient l'acheter.
Eh bien, très bien, formidable. Et la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
Un dossier sur le Levothyrox, ce médicament dangereux. Donc, les routes en Europe du Levothyrox. Et puis, je prends une plainte de l'actrice Mylène de Mongeau que nous révélons.
Très bien, tout à suivre sur France Info. Tout est politique. Nous, on se retrouve demain.